That's right. Now, say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
Salut, salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture. Les semaines paires.
Eh oui, les semaines paires. Salut Seb.
Salut Pablo, comment ça va?
Eh ben ça va bien. Et puis une excellente année à toi, enfin si on peut dire.
Ah oui, à tout le monde.
À tout le monde, à tous les auditeurs,
tous
les auditrices, tous nos
voeux. Et surtout la santé.
Et voilà, surtout la santé, c'est ce qu'il faut dire.
Alors on commence l'émission quand même en saluant tous les auditeurs et toutes les auditrices, mais aussi nos amis chroniqueurs. Anaïs et Seb, salut.
Mais oui, salut à vous qui sont pas là mais qui sont là ici.
Alors comme tous les 15 jours, y a Bande Geek Mafia, et bien tous les 15 jours on vous parle de cinéma, de séries télé, de musique, de tout ce qu'on aime.
Voilà, exactement, on va vous présenter tout ça et peut-être même un compte tout à l'heure, donc si on est motivé, si on est chaud.
Exactement.
Allez.
Alors il y a des auditeurs, il y a des auditrices qui nous font des suggestions, hein, qui nous demandent
Des musiques.
Ouais, alors par contre, ah oui, mais alors il y a un problème. On nous a demandé Vald.
Ouais.
Le problème, c'est qu'il faut confirmer son âge.
Ah waouh.
Qu'est-ce que c'est que ce clip?
Dis donc.
Bon, alors du coup, moi j'ai pas. Il faut avoir un compte sur YouTube du coup pour pouvoir écouter ce truc-là. Merci à l'auditeur qui nous a donné ça. Qui nous a demandé ça.
Quelle excellente idée.
Ben non, mais moi je pensais qu'on allait pouvoir le diffuser.
Oui, moi aussi.
Que ça ne va pas être simple. Donc celui-ci, on peut pas.
D'accord.
On va passer à un autre titre. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, a priori, c'est bon. Alors ça, c'est de la. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors donc, Vald, c'est un rappeur. Tu me disais, Pablo.
Oui.
On va pas pouvoir écouter le titre que l'auditeur Paul nous avait demandé. C'était Anou Naki. Mais on va écouter Désaccordé. Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, strap de merde, j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter. Je coupe la plaquette à l'épée, plein de filtres, plein d'effets. T'as pas de rime, pas de texte, pas de string, même pas de fesses. Pas de piste, donc pas de guerre. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Comme si j'étais sorti d'HEC. Sur le détecteur, la chaussette, j'ai les combos, la recette. Promis, je touche pas ta serrette. Je t'aime encore en levrette, je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le cœur sur la main. Je renifle les fleurs du malin. Chant encore l'odeur du machin. J'esquive lueur du matin. Je sais très bien ce qui m'a. Attends, même t'y penses à moi si t'as le temps. Je la vois qu'une seule fois par an, comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Tim en bas, je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas, les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères comme lundi matin, dimanche soir. Mais écoute-toi si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais, 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 ouais. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas, les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Oh ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Dans la F, dégarer mon buzz, éclater mon buzz. De faire des sondeuses, je garde des sondeuses.
Voilà, c'était Vald avec Désaccordé dans Band Geek Mafia. Ah, un peu de musique, ça fait du bien.
Ouais, pour commencer direct, allez.
Un petit générique, et puis tout de suite après, on va parler...
Cinéma.
De cinéma.
En toute modestie.
Toujours. Alors comme on a déjà parlé il y a 15 jours dans l'émission de Don't Look Up, on était les premiers à en parler, hein,
ouais,
quasiment.
Je
vais vous parler ce soir d'un autre film qui est sorti sur, sur Netflix. C'est Red Notice, ou La Notice Rouge au Québec.
C'est vrai.
Alors c'est une comédie d'action américaine qui est vraiment pas mal du tout. On a découvert ça avec, avec Paul. Alors... En gros, pour vous donner vraiment une vue d'ensemble, après je rentrerai dans les détails, mais en gros, c'est vraiment un film d'action à la James Bond ou à la... comment on dit avec Tom Cruise.
Mission Impossible.
Mission Impossible, okay. Exactement. On est carrément là-dedans.
Oui, mais oui, c'est le, j'avais vu le pitch et ça m'avait bien accroché.
Alors, si vous aimez les films d'action des années 80, vous allez adorer aussi. Hein.
D'accord.
Si vous aimez les films des années 80 avec Schwarzenegger ou Stallone, on est à fond aussi là-dedans.
D'accord.
Donc, c'est un mélange de
dans
tout
l'esthétique.
Ça. Dans l'esthétique. Alors, ça commence, en fait, il y a 2000 ans. Marc-Antoine offre à Cléopâtre 3 œufs ornés de bijoux en guise de cadeau de mariage. Mais les œufs sont perdus au cours du temps, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés au début du XXe siècle. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le tout début du film, hein, parce que je ne veux pas trop vous en dire.
D'accord.
Et puis aujourd'hui, en 2021, on a un agent spécial profileur du FBI, tu vois, qui est chargé d'aider un agent d'Interpol à enquêter sur le vol potentiel d'un de ces œufs, qui est exposé au musée du château Saint-Ange à Rome.
D'accord.
Voilà. Alors évidemment, l'œuf va disparaître, et
d'accord,
à partir de là, c'est une course-poursuite complètement folle. Hein, ils travaillent ensemble.
Oulala, ça sent la manipulation.
Oh, mais alors tu as tout compris.
Ouais.
C'est exactement ça. C'est un film de manipulation, de faux-semblants. Alors, il y a une enquête, hein, bien sûr, puisqu'on va à la recherche de ces œufs qui ont disparu. Mais les bons et les méchants ne sont pas ceux qu'on croit.
Ah.
Voilà. Alors, donc, c'est de l'action, c'est de l'aventure, c'est policier, ça dure 2 heures. Il y a Dwayne Johnson, The Rock.
Ouais. D'accord, ben oui.
Il y a Ryan Reynolds, qui est excellent. Si vous avez aimé, si vous aimez l'humour, en fait, Ryan Reynolds, il est quand même assez drôle. Et puis, il y a Gal Gadot, très, très grande actrice israélienne qui joue Wonder Woman.
Ah oui, d'accord.
Okay. Eh oui. Donc, on a quand même un trio plutôt sympa.
Très bien,
voilà.
Très sympa.
Donc, si vous voulez, donc Interpol déclenche une espèce d'alerte rouge. Il faut traquer, il faut capturer les criminels. Le FBI fait appel donc, à son meilleur profileur. Et donc, il sillonne la planète. Voilà. Il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire. Il doit s'associer avec un voleur aussi pour arrêter la femme la plus recherchée du monde.
Ah donc elle c'est la femme la plus recherchée.
Ah ouais non mais c'est un truc de fou. Hein.
Ah oui oui. Ah, donc c'est pas mal quoi. On passe.
On s'ennuie pas du tout.
Je pense qu'à mon avis tu passes 2 heures, t'es tenu en haleine.
Voilà, bah, c'est vraiment. Je répète ce que je disais tout à l'heure, mais si vous faites un mix de James Bond, tu vois, de Mission Impossible et des films d'action des années 80, vous êtes dedans. Là.
Ok, c'est, d'accord.
On est complètement dedans. Avec de l'humour et tout ça. Non c'est
sympa.
Ouais, c'est cool. C'est pas mal du tout. Donc voilà, ça s'appelle
assez léger pour commencer l'année, tranquille quoi.
Alors exactement. Pour commencer l'année, c'est un bon film bien sympa.
Ouais.
Alors évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, on va pas dire le contraire.
Ouais.
Mais bon, Ryan Reynolds, pour ceux qui auraient oublié, c'est celui qui joue Deadpool. Hein.
Ok, d'accord. Mais ouais, voilà, je me disais où est-ce que j'ai entendu le nom. Ok.
Ryan Reynolds, c'est Deadpool.
Ouais.
Gal Gadot, c'est Wonder Woman.
Ouais.
Et puis Dwayne Johnson, c'est The Rock.
Ouais. Donc on a.
Donc voilà.
Un bon casting, efficace.
Et... efficace, c'est le mot.
Ouais.
Non mais honnêtement, ça révolutionne rien, mais c'est un divertissement agréable.
Ouais, tout à fait.
C'est une comédie d'action.
Non mais c'est bien aussi. Moi je trouve que parfois c'est bien d'avoir des films qui sont efficaces comme ça dans ce domaine. Un peu de légèreté, un peu de.
Et puis
et
sur
sans
les.
Être une daube quoi, tu vois. Sans,
c'est
sans...
pas une daube.
Ouais, c'est ça.
Sur les scènes de combat, les courses poursuites, c'est plutôt bon, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est divertissant.
Nickel.
Donc j'avais envie de vous en parler, de partager ça avec vous parce que
impeccable.
C'est
ouais, surtout qu'en plus il est ouais voilà, on l'a vu sur la plateforme, il est apparu beaucoup de fois quoi.
Puis alors ça remonte, enfin c'est pas que ça remonte le moral, mais c'est quand même plus joyeux que Don't Look Up qui finit mal.
Ouais, tout à fait.
Mais ça on le sait depuis le début.
Ouais.
Mais Don't Look Up c'est un excellent film, hein. C'est un énorme succès en ce moment.
Ouais.
Mais c'est vrai que bon, c'est un peu dramatique.
Ouais, clairement.
Alors que Red Notice non.
Voilà. Ben oui, voilà. Là, les héros, ils gagnent à la fin.
Ouais, là, voilà. Donc,
c'est normal.
C'est... Et en même temps, il y a des surprises.
Non, mais ça, j'imagine. Des rebondissements.
Ouais, ouais. C'est pas mal du tout. Bon, alors, on va écouter un truc justement un peu dynamique. On va écouter The Strokes.
Et ben impeccable.
Avec Machu Picchu.
Bah ouais, on va prendre un peu de hauteur dans cette année-là.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur 101.5 sur Radio G.
Voilà, c'est The Strokes.
The Strokes, Machu Picchu.
Pardon, on dit micro, nous la remettons une fois vite fait.
De quoi va-t-on parler, Pablo ?
Eh bien, de série, on dirait. Alors, d'une très belle série, une série mythique, True Detective, saison 1,
oui.
Que j'ai revu il n'y a pas longtemps, et donc je voulais vous en reparler.
Tu as raison, Pablo, c'était excellent, True Detective.
Les amis, pour parler de True Detective, j'ai commencé par une citation de Nietzsche qui écrivait dans Par-delà bien et mal, Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges ton regard longtemps dans l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Fin de citation.
C'était un grand poète, ce Nietzsche.
Ouais, il est énorme dans sa façon d'écrire.
Le poète philosophe.
Mais carrément. Et c'est vrai que je trouvais que si vous avez jamais vu cette série, vous avez de la chance.
Alors la saison 1 est un chef-d'œuvre.
C'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, une True Detective est une anthologie télévisée américaine. Anthologie veut dire que chaque saison est indépendante. Il y en aura 3, donc je vous les chroniquerai. Comme Black Mirror, dont j'avais parlé il y a quelques temps, chaque saison donc, peut donc se voir de façon indépendante. La série a été créée et écrite par Nick Pizzolatto et réalisée par Gary Fukunaga. Pour la première saison, diffusée en 2014 sur HBO aux États-Unis, en France sur OCS d'abord, puis sur Canal+. True Detective s'est vite imposée parmi la critique et le public comme une série culte. Waouh. En effet, une série puissante, élégante, dense et mélancolique, qui se joue sur 3 chronologies. Les années 90, les années 2000, les années 2010.
C'est clair.
Je vous lis le synopsis. La série se présente comme une anthologie, chaque saison ayant une distribution et une intrigue distincte. La première saison se déroule en Louisiane, en 1995, et narre l'enquête de 2 inspecteurs très différents de la Louisiana State Police, Rustin Cole et Martin Hart, chargés de retrouver l'assassinat d'une jeune femme coiffée de bois, de cerf et tatouée de dessins sataniques. Alors qu'ils ont quitté la police, que Rust semble être parti à la dérive, que Martin est devenu détective privé, ils sont contactés et interrogés en 2012 par 2 autres inspecteurs après qu'un meurtre similaire ait été commis. Cet interrogatoire construit les retours en arrière, les flashbacks, qui dévoilent les étapes de l'enquête et l'évolution des relations entre les 2 hommes et leur psychologie. Après cet interrogatoire, Rust va convaincre son ancien coéquipier de reprendre l'enquête que lui n'a jamais abandonnée. À eux deux, ils vont soulever un coin du mystère d'une série de meurtres sataniques et pédophiles. La réalisation, la photographie somptueuse, les bayous de Louisiane, la musique et les ambiances très léchées témoignent d'une réalisation virtuose qui s'accorde le luxe de pouvoir être lente et longue sans provoquer de l'ennui. Pour amener le public vers de soudaines ruptures de ton, il y a notamment un plan séquence halluciné qui clôture l'épisode 4, un véritable joyau. Je sais pas si tu t'en rappelles.
Ah oui, je me rappelle très bien.
Il est incroyable. C'est vraiment quelque chose.
Je l'avais même montré à Florence.
Ah ouais.
Juste le plan séquence.
Ouais, le plan séquence, c'est vraiment terrible. Parce
un morceau
que
de bravo.
Je sais pas si vous savez, enfin, j'imagine que les auditeurs savent plus
oui.
quand même ce que c'est qu'un plan séquence. Mais effectivement, on n'arrête pas de tourner. Ce qui demande.
Il n'y a pas de montage.
Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut. Ce qui fait que ça demande une organisation de toute la scène pour pas qu'on voit.
Pour pas qu'il y ait de coupure.
Pour pas qu'il y ait de coupure et pour pas qu'on voit tout ce qui se passe derrière quand on est sur un plateau. Non, bref, c'est énorme. Je reprends. Cette fois, les personnages sont profonds, entre grandeur et décadence. Marty Hart, d'abord, interprété par Woody Harrelson. Alors, Martin Hart, il est brutal, sanguin.
C'est clair.
Assez bourru. Plutôt antipathique. Il est pétri de certitudes sur ce qu'est un bon flic, une bonne famille, etc. Parfois, il concentre franchement les clichés du parfait connard, entre guillemets. Peu attentif à sa femme et à ses filles, il se consacre entièrement à son travail, mais il est aussi très infidèle, de façon chronique. Il est accro au sexe et à la bouteille. Et pourtant, il est loyal, ou s'efforce de l'être envers son partenaire Rust. Même s'il ne le comprend pas, il le respecte, l'admire même pour sa liberté de penser et de ton. Bref, Marty a un côté rusto, mais on finit par s'attacher au bonhomme.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Alors, Rust Coleman maintenant. on écoute un petit passage de Rust.
Cet endroit, jamais. Ça m'a rappelé mon père quand il me parlait du Vietnam. La jungle, vous voyez. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle. Ça. C'est de ça dont je vous parle, moi.
Alors, Russ Paul est en train de montrer des photos, non. Des photos de femmes mortes, évidemment, puisqu'il arrive sur des scènes de crime et on étudie des cadavres. Russ Paul, interprété par le magistral Matthew McConaughey, il est cynique, profondément pessimiste. C'est un pur Schopenhauerien, c'est-à-dire un disciple de Schopenhauer, l'allemand Schopenhauer du 19e siècle, qui expliquait que la conscience, nos jugements, nos désirs ne sont qu'une vaste illusion inventée pour nous masquer le non-sens de la réalité. Comme un voile que l'on jette sur le réel, le voile de Maya, disent les Indiens, et pour nous le faire supporter ce réel. Le réel est absurde, et quand on le regarde bien en face, on y voit soit le vide, soit la souffrance.
Waouh.
Rust dit que le monde est un gigantesque caniveau perdu dans l'espace, c'est sa citation. L'avantage avec les pessimistes désillusionnés revenus de tout, c'est qu'ils sont cash, qu'ils s'efforcent d'être sincères en toutes circonstances, ne s'embarrassent pas de convenances polies. Rust est aussi un expert en combat et un fin limier. Il a l'instinct du chasseur et il ne lâche rien quand il tient une piste. Lui aussi boit trop et fume trop aussi. Mais ce n'est pas tout concernant Rust. Il est doué d'une profonde empathie, ce qui lui permet de s'imprégner de l'ambiance d'une scène de crime, mais aussi ce qui lui permet de découvrir les failles des prévenus qu'il interroge et de les faire avouer lors de ses interrogatoires. Il a perdu sa fille dans un accident, la plaie reste ouverte. Lui aussi est loyal envers son coéquipier. C'est donc une drôle d'équipe d'anti-héros, une drôle d'amitié qui lie ces deux lascars écorchés vifs. Pourtant, outre la loyauté, ce qui les réunit, c'est la passion de la vérité. C'est plutôt un instinct, dans leur cas, un instinct pour la vérité, qu'ils développent en talent de détective. La série est très psychologique donc. Mais c'est aussi un profond thriller qui vous plonge dans les bas-fonds de l'âme humaine, symbolisé par les marais du bayou. Dans certains épisodes, nous nous retrouvons parfois comme dans un cauchemar d'enfant, poursuivi dans un labyrinthe par un ogre. Les enfants sont très peu montrés dans la série, et pourtant, il n'est question que d'eux dans les disparitions et les crimes. Le thème de la religion chrétienne est très présent, bien sûr. Nous sommes dans le sud profond des États-Unis, surtout du péché et de la rédemption. Prenons de la hauteur pour finir. Élevons-nous des bayous marécageux et sordides vers les astres. True Detective, dans la saison 1, c'est la lutte mythique de la lumière contre les ténèbres. Si l'on regarde le ciel étoilé, les ténèbres sont partout envahissants. Et ce, depuis l'origine de l'univers. Pourtant, la lumière des astres est là, elle résiste. Rust dit même, et c'est sa seule phrase optimiste de la série, qu'au début, il n'y avait que les ténèbres. La lumière est donc en train de gagner. True Detective saison 1, voilà, vivement conseillé. Merci de votre écoute.
Merci Pablo. Alors ce qu'on pourrait ajouter pour les auditeurs, c'est aussi une très très bonne bande son.
Ah ouais, excellente.
Beaucoup de très bonnes musiques dans True Detective.
Ouais, on vous en a passé quelques extraits, notamment là ici.
La country, avez, du blues.
Ouais, Cassandra Wilson, là, Signs of the Judgment.
Du rock aussi.
Ouais. Beaucoup de rock, du blues, du gospel.
Super bande musicale.
Incroyable.
Je sais que tu m'as donné envie de revoir la série, Pablo.
Ah ouais,
c'est enfin, la saison 1 en tout cas.
La saison 1.
Je suis moins fan de la saison 2.
Et j'espère te convaincre dans 15 jours sur la saison 2. On verra bien.
Bah, challenge. En fait, alors, c'est très bizarre, peut-être que ça intéresse pas tout le monde, mais c'est entre nous, Pablo.
Ouais.
Autant la saison 1, j'étais fasciné, j'ai pas pu la lâcher. Je l'ai même regardé deux fois.
Ah, calme.
Autant la saison 2, bah, j'ai décroché en cours de route en fait.
Ah ouais.
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Pourtant, c'est étonnant parce qu'on en reparlera. Hein, mais le casting est superbe.
Ah ouais, mais je sais pas. La première saison est tellement parfaite que ça pouvait être que moins bien.
Ouais, bah oui. Après. C'est ça. Il faut partir sur autre chose.
Enfin bon, c'est juste mon impression.
Mais tout à fait.
Alors Pablo, on avait envie d'écouter un petit Nirvana.
Bah oui. Hein,
parce qu'il y a quand même...
Un bon vieux Unplugged.
Voilà, il y a 30 ans sortait Nevermind, bon. Et puis ensuite, un magnifique live débranché.
À New York.
Débranché à New York. Alors c'était la mode, hein, au début et au milieu des années 90, de ces live Unplugged in New York. Alors, il y en a eu plein.
Il y en a eu plusieurs. Hein.
Hein, il y a eu Eric Clapton, qui est très connu. Il y a eu Alice in Chains. Et puis, il y a eu ce fameux live de Nirvana. On va écouter Omi, une reprise des Meat Puppets dans Band Geek Mafia.
Excellent. Sans un bon musique. If I had to lose my mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul. Have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? When it hit your birth, I can't see. Expanse, I cannot see. Formulate affinity stored deep inside me. If I had to lose a mind, had a touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? Bennett at your birth, I can't see you love me. My own expanse, I cannot see. Formulate affinity stored deep inside me.
Nirvana avec Omi,
The Unplugged in New York, MTV. Et je sais pas si c'est comme moi, mais moi je vois tout de suite les lys sur la scène. Voilà.
C'est vrai que c'était un peu funéraire.
Ah ouais. Oui, carrément. Une ambiance très funéraire avec des comment on appelle ça ? Il y avait des lys, des bougies, des cierges et des grands chandeliers.
Est-ce que c'était prémonitoire de la mort de
Kurt
Cobain ?
C'est très étonnant.
On sait pas.
C'est vrai que ça ressemble vraiment à un concert d'adieu.
Ouais, c'est vrai.
Après coup, hein, on se demande. Voilà.
Allez, on se remonte le moral.
Yes.
Parlons plus loin du micro, nous la remettons une fois vite fait.
Tu veux dire qu'on continue sur les séries ?
Exactement. Alors on continue sur les séries. Je vais vous parler de trois séries assez rapidement. La première, c'est Superstore.
Yo.
Alors pas Superstar, mais Superstore, supermarché en fait. Alors c'est une série que j'ai découverte aussi sur Netflix, série américaine qui a commencé en 2015 hein, et qui est toujours en diffusion. Donc on doit être rendu à la 6e saison. Alors moi pour l'instant je dois être à la 3e. Hein. On regarde ça avec Florence, avec Paul. Mmh. Alors ça raconte quoi Superstore ? Ce sont les drôles de mésaventures des employés d'un grand magasin. Voilà. Des débutants aux yeux qui brillent, hein, aux vétérans ayant déjà tout vécu,
d'accord,
en passant par les employés d'été paumés, les managers déterminés,
ouais,
ils affrontent en famille, hein, parce qu'on est dans une série américaine, mmh, les soucis du quotidien inhérents à la gestion d'une grande surface. Alors dit comme ça, ça fait pas forcément rêver. Et en fait, c'est très drôle. C'est une série très drôle. On s'attache aux personnages.
Ouais.
Les acteurs jouent super bien, c'est à voir. Moi je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Voilà, c'est une sorte de sitcom, hein, c'est cocasse et ouais, en fait il y a beaucoup de comiques de situation.
D'accord.
Voilà, c'est très théâtral en fait.
Un côté Friends ou un côté ou plutôt
ouais,
ou Family Business.
Ouais, ah bah tiens, ouais.
Un voilà, peu dans le style.
Dans le style Family Business.
Peut-être en moins déjanté quand même.
Mais par contre, ah bah complètement, ouais, parce que c'est une série américaine.
Ouais, voilà.
Mais dans le style Modern Family, je sais pas si vous avez vu cette série aussi.
Ouais, d'accord.
Donc le concept est super simple, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Alors c'est l'humour très très à l'américaine. Alors il y a par exemple Dina qui est un personnage vraiment vraiment excellent parce que c'est un peu une chef de rayon mais autoritaire. Mmh. Voilà. Et puis il y a des histoires d'amour entre les employés. Il y a quand même du fond parfois. Mmh. Par exemple il y a un employé qui est sans papier mais il le cache. Tu vois.
D'accord.
Donc ça crée des difficultés. Ça lui crée des difficultés.
Oui.
Voilà, donc il y a quand même un peu de fond. C'est pas que de l'humour pour. Pour rigoler. Ouais. Par exemple, ça me fait penser, puisque tu comparais la série avec d'autres, à Brooklyn Nine-Nine, par exemple, ou The Office. Vous voyez, voilà. Parce qu'on s'attache à ce petit groupe là de personnages. On connaît leur personnalité au fil des saisons. Voilà, c'est. On se laisse embarquer, voilà, par le côté loufoque. Si vous n'avez pas la pêche, là, ça va vous faire du bien.
Ouais, voilà, un petit peu de légèreté pour commencer l'année, surtout dans cette période pénible.
Oui, voilà. Bah, en fait, en ce moment, moi, ça me fait beaucoup de bien de regarder Superstore.
Clairement.
Oui, voilà. Donc, voilà, c'est à regarder en famille. Honnêtement, c'est sans problème. Hein, voilà. C'est Brooklyn Nine-Nine au supermarché, quoi.
Ouais. Trop bien.
Voilà. Ça, c'était donc pour Superstore.
Superstore.
Je prononce bien.
Ouais.
Alors, deuxième série pour moi ce soir. Rien à voir. C'est sur Arte. C'est une série argentine. D'ailleurs, je vais vous parler de deux séries sur Arte. Hein. La première, c'est une série argentine. Alors, c'est vraiment une mini-série, je dirais, parce qu'il y a très peu d'épisodes. Il y a 6 épisodes, mm-hmm, mais de 10 minutes, quoi. Un quart d'heure.
C'est... Ah oui, c'est très rapide.
Ah, c'est très rapide. Alors, vous pouvez regarder ça en une soirée ou
d'accord,
deux. En fait, ça s'appelle 1m20. 1m20.
OK.
Alors, pourquoi 1m20 ? Parce que c'est l'histoire de Juana, qui a 17 ans, et qui est handicapée. Et donc, clouée dans un fauteuil.
Eh ben oui.
Et donc, elle fait 1m20.
Elle fait 1m20, ouais.
Et en fait, Juana, elle a 17 ans. Et comme tous les jeunes de son âge, elle ne pense qu'à ça.
Ouais.
Et oui, elle est scotchée à son portable, mais aussi, elle est coincée dans son fauteuil roulant. Et donc, elle bataille aux côtés de ses camarades de lycée pour bénéficier d'un cours d'éducation sexuelle.
Mmh.
Et elle rêve aussi d'étreinte incandescente. Mais...
Bien sûr.
C'est quand même pas banal parce que c'est la première fois que moi, en tout cas, je voyais une série consacrée à la sexualité d'une héroïne en situation de handicap ou d'un héros même en situation de handicap.
Bien sûr.
Donc c'est une première venue d'Argentine et qui se distingue par en fait une espèce d'obstination déterminée avec laquelle elle aborde son sujet,
d'accord,
tu vois, sans nuire à la profondeur émotionnelle ni à l'humour, hein, d'ailleurs. Donc honnêtement, c'est un ovni, voilà, qui est venu d'Argentine mais qui séduit par son réalisme sans tabou. Et avec son humour ravageur. Et alors l'actrice Marisol Agostina Irigoyen qui joue le personnage principal Juana, elle est irrésistible.
Ouais.
Elle est irrésistible dans son rôle.
Ouais.
Honnêtement, voilà, c'est pas Sex Education hein, qu'on connaît sur Netflix.
Ça fait penser un petit peu au thème.
Ouais, parce que y a un jeune homme handicapé en fauteuil dans Sex Education, c'est Isaac, mais là, c'est pas pareil parce que Juana, elle est. On oublie qu'elle est en fauteuil, en fait. Enfin, elle est. Alors, on oublie parfois, parce que quelquefois, elle est complètement contrainte par son handicap.
Bien sûr.
Mais comment dire ? On peut s'identifier. Tout le monde peut s'identifier à elle, en fait. Je pense que tous les jeunes de 17 ans peuvent s'identifier à elle parce qu'elle est comme les autres dans le sens où elle, malgré son handicap, elle a les mêmes problématiques
tout à fait.
Que les autres en fait. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait.
Et on est plutôt sur, le mélodrame ou sur la comédie?
Non, en fait, c'est pas du tout pathétique, de tire-larmes, mélodramatique, pas du tout.
D'accord.
C'est vraiment réaliste et drôle. Ouais.
Réaliste et drôle.
Réaliste et drôle, impeccable. Vraiment.
C'est ce qu'il nous faut. Hein.
On voit les difficultés qu'elle peut avoir, mais on voit aussi cette espèce de récit initiatique et sensible, tu vois. Et elle compose avec sa vulnérabilité, en fait.
D'accord.
Tu vois, c'est souvent, comment dire, souvent les personnages en fauteuil, ils sont filmés que dans leur fauteuil.
Par exemple,
donc c'est le cas dans Sex Education. C'est le cas aussi dans Superstore dont je parlais avant.
D'accord.
Il y a un employé en fauteuil.
D'accord.
Juana, elle est parfois, même souvent dans son fauteuil, mais elle n'est pas toujours dans son fauteuil. Enfin, on la voit quelquefois en difficulté quand il faut qu'elle que quelqu'un la porte, tu vois.
Bien sûr.
Et donc elle est pas tout le temps dans son fauteuil. Ouais, on la voit allongée sur son lit, on la voit. Donc d'un seul coup, on oublie qu'elle est. En fait, on oublie que son handicap, quoi.
Bien sûr.
Enfin voilà. Donc c'est vraiment très chouette. C'est vraiment découvert par hasard sur Arte.tv. Ça s'appelle 1m20. Voilà.
D'accord. Impeccable.
Dernière série pour moi ce soir.
Ouais.
Alors je salue Frédéric, fidèle auditeur de l'émission, qui m'a parlé de cette série qui s'appelle Vigil. Alors, du coup, je me suis un peu renseigné. J'avais lu un article déjà dans Télérama sur cette série anglaise, donc qui vient de sortir sur Arte. Alors, c'est un thriller, clairement, c'est un thriller. On va problématiser un petit peu. C'est comment la disparition d'un chalutier de pêche écossais et le décès d'un individu à bord d'un sous-marin nucléaire engendre un conflit entre la police locale, la Royal Navy et les services de renseignement britanniques.
Aïe, aïe, aïe.
Tu vois, carrément.
Ah ouais, d'accord. D'accord, un gros conflit d'intérêts, et là, ça...
Pas mal.
Ah ouais.
Donc,
j'ai cru que tu allais me parler des pêcheurs bretons, là.
Non, en fait, c'est vraiment... Il y a un meurtre, et puis ensuite, une espèce de lutte, voilà, entre la Navy, la police... Les services secrets, donc une série télé anglaise qui suit une enquêtrice donc dépêchée sur un sous-marin nucléaire anglais pour enquêter sur un meurtre.
Très
donc une femme flic contre tout un équipage à l'apparence irréprochable.
Voilà.
Donc une très très bonne série conseillée ce matin par Frédéric, merci à lui.
Du coup, qui se passe en huis clos, hein, c'est ça,
dans le sous-marin. Ouais. Alors c'est à la fois dans le sous-marin, enfin pas seulement.
Pas seulement, d'accord.
Ce que j'ai compris en tout cas, parce que je n'ai pas encore vu celle-ci.
D'accord.
J'espère la voir rapidement.
Bah, écoute,
ça me donne très envie. Ouais.
Bah, là, tu nous as carrément
allé chercher. Super
avec,
casting, hein.
Ouais.
Super casting d'actrice anglaise, Saoirse Jones et Rose Leslie que vous connaissez parce que vous l'avez vue dans Game of Thrones.
Ah ben oui.
La rousse.
Wow.
Jon Snow.
Oui, la rousse Hagrid. Hagrid, la sauvageonne.
Et voilà.
Ouais, magnifique.
Et ben elle joue. Elle joue dans Vigile.
Ok.
Donc Vigile, c'est le nom du bateau. Hein. Oui,
d'accord.
Parce que je.
Ouais.
Ça n'a pas une histoire de Vigile.
Ouais. Oui, c'est ça, je me disais. non. Ok.
Donc mais, trois séries.
On salue tous les Vigiles, hein, vous inquiétez pas.
Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Donc c'est sur Arte. Vigile saison 1.
Yes.
Voilà, ça a démarré là il y a quelques jours.
D'accord.
Donc ne ratez pas ça. Je vous redonne mes trois séries ce soir.
Superstore.
1m20 et
Vigile.
Voilà.
Impeccable.
Alors, petit clin d'œil à Superstore. Le supermarché s'appelle Cloud 9. Cloud 9, ça veut dire le 7e ciel en anglais.
Alors ça, c'est étonnant.
Et il y a un morceau de George Harrison qui s'appelle Cloud 9 qu'on écoute tout de suite dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5.
Have my love, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, they be yours from the start. The pieces to a bit of mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain of mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud shown, you may make it all your own. If you want to quit, that's fine. While you're out looking for cloud
Et voilà, c'était le grand George Harrison avec Cloud 9 dans Bande Geek Mafia. Alors tout de suite, la suite. Pablo, tu vas nous lire un conte. C'est incroyable, ça.
Alors oui.
Est-ce que tu veux un petit générique?
Allez.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Creature Shock Radio FM.
À toi, Pablo.
Alors, je vais vous raconter une fable philosophique inspirée en fait, librement inspirée, mais d'un, en fait d'une fable inventée par Platon. Dans la République numéro 2, le livre 2 de la République de Platon. Ça s'appelle l'anneau de Gigès, et je pense que vous allez reconnaître beaucoup de choses. Il était une fois, dans l'antique Lydie, une belle région de la Grèce vantée pour ses belles montagnes et ses collines verdoyantes, il était une fois un berger nommé Gigès. Réputé pour son calme, ses goûts simples et sa bonne camaraderie, Gigès gardait les troupeaux du prince de Lydie. La saison des transhumances touchait à sa fin et il s'était décidé à redescendre dans la vallée, d'autant plus qu'approchait le jour de la fête au village, jour où l'on célébrait la fin des transhumances et des récoltes. Alors qu'il redescendait et qu'il était dans les pâturages, le ciel se couvrit tout à coup. Et survint un orage violent. Gigès se réfugia dans une grange non loin de là et s'y tint blotti toute la nuit avec ses brebis. La colère de Zeus s'abattit sur le monde. Les pleurs des rats coulaient sur la terre sans interruption. La foudre venait frapper les montagnes, fendant la roche et enflammant les arbres. Ce fut une nuit de déluge. Cette nuit-là, Gigès eut du mal à rassurer ses bêtes. Quand soudain, un éclair violent vint frapper le champ tout près de la bergerie où se trouvait Gigès. La terre se déchira en un gouffre qui s'ouvrit. À l'aube, quand le calme fut revenu, le berger, tout étonné, décida de redescendre dans le trou et vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain de grande taille, creux, avec des ouvertures. Se penchant vers l'intérieur, il découvrit le cadavre d'un homme d'une taille supérieure à celle d'un humain ordinaire. Il ressemblait à ces géants dont parlaient les légendes anciennes. Il était nu, ne portant à la main qu'un anneau d'or. Gigès le retira et remonta à la surface. Il l'observa attentivement. C'était un anneau d'or assez lourd et froid au toucher. Sur le dessus se trouvait le chaton de la bague qui insérait une pierre qu'on discernait à peine tant elle était transparente. À l'intérieur de l'anneau, on devinait des écritures dans une calligraphie étrange et penchée, inconnue du berger. Satisfait, il se dit que c'était là un signe du destin, que les dieux le récompensaient sans doute pour sa vertu. C'était aussi peut-être le présage d'un futur mariage, qui sait ? Il mit l'anneau à son doigt et constata, étonné, qu'il lui allait parfaitement bien. À cet instant, il entendit comme un sifflement strident dans sa tête et une petite voix étouffée qui semblait monter du fond de son âme.
I am the master of the precious. The precious is mine.
Il mit ça sur le compte de son insomnie et de sa terreur nocturne. Sans plus attendre, il rassembla ses bêtes et redescendit dans le village. Quelque temps plus tard, il se rendit, comme chaque mois, à la réunion des bergers en vue de faire au roi son rapport mensuel de l'état des troupeaux. Depuis sa découverte, il ne s'était jamais séparé de sa bague. Alors que la fête battait son plein, que l'on mangeait et chantait et ripaillait tant et plus, et qu'il était assis au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de sa bague vers l'intérieur de la paume de sa main. À peine avait-il fait ce geste qu'il devint invisible pour ceux qui étaient autour de lui et qui parlaient de lui comme s'il avait quitté l'assemblée. Tout étonné, il s'éloigna de ses camarades. Puis il tâta discrètement sa bague et se rendit compte que lorsque le chaton était tourné vers l'extérieur, il redevenait visible. Il refit l'expérience à plusieurs reprises et avec succès. Quand il tournait en dedans le chaton, il devenait invisible, en dehors, visible. C'est alors que de noirs dessins apparurent dans son esprit. Une idée s'y installa et ne les quitta plus. Peut-être pourrait-il changer de vie. Cet anneau magique était peut-être plus qu'un cadeau des dieux, une véritable opportunité à saisir. Et peut-être que le temps était venu de la saisir. Alors qu'il avait ses pensées au fond de lui, une petite voix semblait murmurer en écho.
The precious is my... The precious is my master. My precious. My precious.
C'est alors qu'il décida de s'introduire subrepticement dans la délégation qui se rendait auprès du roi. Après être rentré dans le palais, en avoir observé les richesses et la beauté, après avoir contemplé la beauté de l'épouse du roi, il ne put résister au désir d'en profiter. Une fois qu'il eut accompli son devoir et donné ses présents au roi, il profita d'un moment d'inattention pour se rendre invisible et s'introduire dans les appartements privés du roi et de la reine. Il trouva cette dernière assoupie. Il s'approcha d'elle et lui murmura à l'oreille. « Éveille-toi, ô noble reine. Vois-moi et reconnais mon nom. Je suis jeune et ambitieux. À nous deux, nous pourrions renverser le tyran et régner ensemble sur la Lydie. » La reine s'éveilla et il se rendit visible. Il séduisit la reine avec sa complicité et fort de son invisibilité. Il poignarda le roi et s'empara ainsi du pouvoir. On ne sait s'ils eurent beaucoup d'enfants. La légende raconte que Gigès et la reine ne figurent pas heureux, mais dans la crainte de perdre leur précieux anneau. On raconte qu'ils vécurent longtemps et malheureux et qu'ils régnèrent de façon cruelle et injuste. Platon raconte que Socrate, qui discutait de cette histoire avec ses amis, leur demanda s'il existait un seul homme assez juste pour résister à ses désirs de possession et de pouvoir sans être jamais puni. Autrement dit, est-ce que nous évitons de faire le mal parce que nous pensons que c'est mal ou est-ce par crainte des punitions et du châtiment ? Faisons-nous le bien et le juste parce que nous sommes sous le regard de la justice et de la société ? Et pourrions-nous continuer à le faire ? Si nous pouvions nous y soustraire, nous rendre invisibles. Merci de votre écoute.
Pablo, en t'écoutant, je pensais vraiment, vraiment à, au Seigneur des Anneaux.
Ah mais clairement, clairement, clairement.
Donc tu veux dire que Tolkien s'est inspiré de Platon.
Ouais, il s'est inspiré de Platon. Il s'est inspiré évidemment des légendes de l'or du Rhin, avec cette légende de l'anneau d'or, mais essentiellement de Platon en fait, clairement.
On apprend des choses en Bande-Big Mafia, merci.
C'est intéressant. Voilà, donc évidemment, allez revoir le Seigneur des Anneaux.
Waouh.
Merci à vous.
Merci, c'est Pablo. Cool.
Alors là, on va passer à un autre registre, mais non moins hard.
Alors ça n'a rien à voir.
Parce qu'on était quand même dans le hard. Eh ben, on passe dans le métal.
Dans le métal. Alors, c'est vrai que sans transition, je dirais, parce que bon, bah, on manque un peu de temps, mais en même temps, on pourrait tout de suite écouter un petit extrait de Gojira, un des meilleurs albums de 2021.
Carrément.
Parce que ce qu'on voulait faire avec Pablo tout de suite, c'était un petit peu les meilleurs albums de métal de 2021. Évidemment, il y a l'album Fortitude de Gojira. Gojira, un groupe de métal français.
Excellent.
Excellent. On espère pouvoir aller le voir en concert en 2022, ce groupe.
Yes.
Si ce n'est pas annulé à cause du Covid. Bon. Alors, il n'y a pas que Gojira dans la vie. En 2021, il y a eu pas mal de sorties très sympas.
Alors, raconte-nous ça.
Raconte-nous tout ça, Père Castor. Alors, Père Castor.
Castor.
Oh, il le fait bien. Tu vas faire fuir tous les auditeurs.
C'est ça.
Alors, hormis Gojira avec Fortitude, il y a eu aussi un double album de Mastodon. Mastodon, c'est un groupe de métal américain. Hein, qui est pas du métal extrême. Hein, d'ailleurs, Gojira, c'est de moins en moins extrême également. Et ça s'écoute plutôt bien. Alors, Mastodon, c'est très varié. Je dirais que c'est du métal progressif. Voilà. Avec des morceaux assez longs, alambiqués, mais avec une super technique musicale. Donc, c'est très, très, très agréable à écouter. Alors, en 2021, et ça, c'est un petit clin d'œil à Rudy, il y a eu un nouvel album d'Iron Maiden.
Mais
bien sûr, Senjutsu. Senjutsu, donc Iron Maiden, pas de surprise. Hein. Si vous aimez Maiden, eh ben, vous allez adorer Senjutsu. On a vraiment des morceaux très sympas. Alors, heavy metal, anglais, épique, voilà. Ça parle de l'histoire, ça parle de la guerre, ça parle de... C'est super.
Du pur Iron Maiden.
Du pur Iron Maiden.
Toujours avec des pochettes de ouf aussi.
Ouais, sur Senjutsu, on a un samouraï. Eddie, la mascotte de Iron Maiden, est déguisé en samouraï. Donc, il y a une ambiance un peu japonaise. Toujours dans le style heavy metal, mais là allemand, ce qu'on appelle du power metal, hein, power metal allemand. Halloween a sorti un nouvel album en 2021, l'album qui s'appelle Halloween.
Halloween.
Ce qu'on appelle un album éponyme.
Éponyme.
Donc là aussi, merci à Rudy hein, pour cette découverte, ce rappel d'un vieux groupe qu'on adorait dans les années 80, Halloween, qu'on avait un peu perdu de vue et qui revient en force. En plus, ils sont 7 maintenant dans le groupe. Il y a 2 chanteurs, plein de guitaristes. En fait.
Ah la vache.
Déjà dans Iron Maiden ils sont 6, mais Halloween a fait plus fort. Donc pour l'instant, voilà les grandes sorties. Il y a eu aussi bien sûr l'album de Dream Theater pour ceux qui aiment le métal progressif. Moi j'aime bien Red Fang, là je fais un petit clin d'œil à Jean-Claude, mon ami Jean-Claude. Parce qu'on est des gros fans de Red Fang, qui est un groupe de stoner américain qu'on a vu plein de fois en concert.
Oui, au Hellfest.
Au Hellfest, et on les a même vus à Nantes, au Ferrailleur, partout. Parce que c'est très très sympa à écouter. C'est du hard rock. Et il faut aller voir les clips vidéo de Red Fang. Les vidéos de Red Fang, elles sont à mourir de rire.
C'est vrai.
Ah bah oui.
Rien à voir avec le côté lourd du stone.
Pas du tout. Ils se prennent pas du tout au sérieux. Ils se déguisent, ils font les cons. C'est très très drôle.
Ah oui, donc ils cassent le.
Ils cassent l'image.
Un décalage.
Ils cassent l'image, ils boivent des bières. Avec modération.
Bien sûr.
Bon, bien sûr, il y a des légendes qui ont sorti des albums en 2021, comme Alice Cooper, par exemple, qui a sorti un album Detroit Stories. Voilà. Après, il y a des nouveautés aussi, des nouveaux groupes, parce qu'il y a quand même du renouvellement dans le métal.
Ça, c'est intéressant aussi.
Et c'est intéressant parce qu'il y a des groupes qui prendront la suite. Gojira prendra la suite des groupes les plus célèbres actuels, hein, comme Metallica ou Iron Maiden, dont on a parlé.
Ils tournent avec eux, ils font les premières parties de Metallica.
Ils ont fait les premières parties de Metallica, tout à fait. Donc c'est un mouvement musical de métal très vivant, avec des vieux dinosaures et puis des nouveaux groupes. Des groupes anglais, américains, français, allemands, japonais. Il y en a pour tous les goûts. Hein, ça va du hard rock le plus basique, c'est-à-dire du rock un peu plus dur.
Heavy metal.
Heavy metal.
Death metal.
Jusqu'au death metal, black metal. Enfin bref.
Le stoner.
Le stoner. On écoute Gojira. C'était Bande Geek Mafia.
Votre émission Info Culture tous les 15 jours.
Sur Radio G.
Et ouais, 101.5, ça fait plaisir. Donc là, c'était. Tu nous tirais
ah oui.
De Rockhard.
Rockhard, le magazine du rock, du hard rock et du heavy metal.
Ouais.
C'est tous les mois. On n'a pas du tout d'action.
Non.
Mais en fait, on en parle parce que c'est vraiment génial. Là, en couverture, ce mois-ci, c'est Kiss. Le groupe de hard rock américain Kiss. Alors bien sûr, il y a toutes les sorties, il y a aussi des interviews.
Et ouais, ça c'est intéressant.
Des reportages.
Toutes les sorties. Ouais.
Voilà, ils reviennent aussi sur l'histoire de certains groupes comme Black Sabbath.
Excellent.
Voilà, excellent. Suivez Rockhard.
Bon, mais ça faisait plaisir.
Bah ouais, Pablo, alors c'est la fin de l'émission, hein, Bande Geek Mafia. On se retrouve dans 15 jours.
Ouais.
On met un petit générique de fin quand même.
Yes.
C'est pas celui-là, c'est celui-là. On va se quitter avec Mastodon parce que je vous en ai parlé. Vous connaissez peut-être pas ce groupe de métal américain. On va terminer en beauté.
Yeah.
Salut.
Salut à toutes et tous. Salut Seb.
Salut Pablo, à dans 15 jours.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Tout de suite, Mastodon. Et après, on vous laisse avec... Rudy's back.